Pour la revue de presse des Hebdo, on retrouve Arlette comme tous les vendredis. Salut Arlette.
Salut Léo, bonjour à toutes et à tous.
Sur la couve de l'Express, un point fermé, dressé et un titre coup de poing.
L'Ukraine doit vaincre. L'Hebdo commémore à sa façon la première année de guerre contre la courageuse Ukraine. Les articles, éditos, récits, analyses, enquêtes s'enchaînent. Si Volodymyr Zelensky avait fui au début de la guerre, comme le lui conseillaient les Américains, le 24 février 2023, l'armée russe défilerait en vainqueur sur la place de Maïdan dans le sillage des chars marqués d'un Z. Si ses généraux avaient flanché devant la deuxième armée du monde et si les États-Unis avaient été indifférents au sort des Ukrainiens, nous en serions peut-être là. Guerre en Ukraine, non, la Russie n'a pas sa place au JO 2024. Il est non seulement naïf et aussi dangereux de croire que le sport peut rester à l'écart de la politique. Éric Scholl, dans son édito, vilipende les « on » qui font des contorsions pour trouver un moyen d'accorder aux Russes le droit de participer aux Jeux. Ça serait bien s'il nous disait clairement qui sont les « on ». Enfin bon. Et puis, parce que Poutine n'abandonnera jamais, n'abandonnons pas l'Ukraine. Pour que la paix puisse revenir, le tyran russe doit échouer et l'Ukraine gagner cette guerre absurde. Slava Vakarchuk, ancien député et leader du groupe de rock le plus populaire de son pays, répète « Nous ne voulons pas vivre dans une grande prison comme les Russes ou les Biélorusses. Ah bah bien sûr, Biélorusse. Insiste-t-il, pour nous, la liberté, la démocratie sont des valeurs naturelles que l'on ressent dans nos veines. Réveille-toi, la guerre a commencé. C'est ainsi que commence le grand récit, signé Clara Marchaud, la correspondante de l'Hebdo, partie s'installer en Ukraine en 2021. Alors je m'arrête là. Vous trouverez 12 articles de plus qui expliquent le titre coup de poing « L'Ukraine doit vaincre ».
Deux sujets phares dans Courrier international, séisme en Turquie et en Syrie, et la folie ChatGPT.
D'abord en page 10 et sur 8 pages, un focus sur le séisme. Un article du quotidien turc Cumhuriyet rend compte de ce que son envoyé spécial a vu en arrivant dans la province de Kahramanmaras, épicentre du séisme, qui a fait près de 40 000 morts. Les destructions sont incommensurables et la colère contre le pouvoir palpable. En Syrie, après des années de bombardements, de déplacements forcés, d'épidémies, le nord-ouest du pays est dévasté. Et puis, lundi, la terre s'est mise à trembler. Comment voulez-vous supporter tout ça ? Se désole Ibrahim Al-Khatib, un habitant de Taftanaz, dans le nord-ouest du pays, qui a été surpris dans son sommeil au petit matin et s'est précipité dans la rue en même temps que ses voisins. D'abord les frappes aériennes russes, puis les attaques de Bachar el-Assad et maintenant le tremblement de terre. En page 10, une carte et divers articles de la presse internationale nous révèlent ce que savent les scientifiques sur ces deux séismes. Dans son édito, Claire Carrard explique « Dans ce numéro et en couverture du journal, nous avons fait le choix de maintenir un autre dossier important et passionnant mais qui relève d'un tout autre registre. À terme, il nous concerne sans doute tous, en tout cas pas mal d'entre nous. Et il bouscule déjà de nombreux secteurs, l'enseignement, le travail, la pratique de l'art, la science, la société. De quoi s'agit-il ? De ChatGPT. Révélé au grand public fin novembre, ChatGPT compte déjà 100 millions d'utilisateurs. Cet agent conversationnel, dopé à l'intelligence artificielle, IA, écrit avec style, dissertations, lettres de motivation et autres textes. Mais il trompe son monde. C'est un article du Sunday Times qui analyse ChatGPT. Alors ne vous laissez pas séduire tout de suite, lisez l'article. Je vous donne juste sa conclusion. ChatGPT n'est aujourd'hui qu'un assistant personnel ayant le goût de l'esbrouf et un certain mépris pour la vérité. Elle va changer nos façons de travailler, de jouer, de communiquer. Ne lui demandez pas de penser.
Et c'est dans le Canard enchaîné que nous découvrons ce qui se passe en France.
Le Canard enchaîné a du grain à moudre cette semaine. D'abord, le titre de la une. C'est pas bientôt fini cet hémicirque ? Mtaz, dans son édito, renchérit. Cela exprime assez bien ce que nous pensons. Laurent Berger, de la CFDT, appelle ça la connerie des députés de la NUPES. Aki Martinez, patron de la CGT, demande plus poliment de prendre leurs responsabilités et d'arriver à s'exprimer sur ce fameux article 7. Ça, y arriveront pas visiblement. Hein. Et il s'efforce encore, comme la semaine dernière, de nous expliquer les stratégies et les objectifs des uns et des autres. Alors, c'est très technique, il faut un peu s'accrocher.
Ah,
hein.
D'accord.
HM, lui, toujours sur la une, analyse pour nous, chiffres à l'appui, la différence entre le trou de la dette contre le trou des retraites. Et là aussi, c'est technique, avec plein de chiffres. Toujours sur la une, mesdames, couchez. C'est, selon Le Canard, l'injonction du député RN Chenu. Pour obéir au programme du RN, je cite, « Faire le choix de la natalité, c'est s'engager à la perpétuation de notre civilisation. C'est aussi le sens des amendements à la réforme des retraites déposés par Marine Le Pen. » Et là encore, je cite, pour déplafonner les aides et les réserver aux familles si et seulement si l'un des deux parents au moins est français. On ne se refait pas.
Allez, on se calme en lisant Télérama.
La vedette de Télérama cette semaine, c'est la nature, proche ou lointaine. Nathalie Cabrol, l'astrobiologiste en Californie, scrute l'espace parce que la vie est là, quelque part, elle en est sûre. Gabriel Fito Shiba vit dans la forêt profonde canadienne et écrit des romans sur cette expérience physique et spirituelle. Alors que Marie-France Barrier, elle, avec son asso, des enfants et des arbres, plante des arbres en collaboration avec des agriculteurs. Plus de 45 000 arbres plantés dans 50 départements. Et enfin, la philosophe Florence Burga pour l'INRAE explore l'hypothèse selon laquelle certains animaux sont soumis à des conflits psychiques semblables aux nôtres. Quelques lignes de Freud, dans son abrégé de la psychanalyse, l'ont amené à étudier l'inconscient chez les animaux. Une folle entreprise ? Et quels animaux partagent avec l'homme une ressemblance psychique ? Tous les mammifères. Mais les travaux de l'éthologue allemand Konrad Lorenz ont mis en évidence des psychopathologies chez les oiseaux.
La nature aussi, dans le 1, qui semble bien mélancolique quand il interroge « Que reste-t-il de nos hivers ?»
Laurent Greilshammer dans Le Zakouski explique le choix de ce sujet. Ne devrions-nous pas mieux apprécier le gel et la neige et tout faire pour enrayer leur raréfaction ? Il est aujourd'hui grand temps de bien mesurer leurs avantages dans le cycle des saisons. Ce numéro du 1 observe l'hiver sous différentes facettes, des champs de batailles ukrainiens aux rues de nos villes où sévissent le mal-logement et la précarité, en passant par les pentes de nos montagnes qui souffrent d'un manque d'enneigement. Car si l'on continue de pester contre les températures négatives de l'hiver, elles le sont statistiquement de moins en moins. La climatologue, coprésidente du GIEC, Valérie Masson-Delmotte, approuve et ajoute « Nous éprouvons la nostalgie des hivers perdus. Le recul de l'enneigement graduel en montagne et des glaciers entraînera une baisse inéluctable d'approvisionnement en eau l'été, qui se conjuguera à une augmentation de la fréquence et de l'intensité des vagues de chaleur et de sécheresse. S'y préparer est essentiel pour éviter des tensions croissantes sur les différents usages de l'eau. Elle revient aussi sur le rôle que joue l'hiver sous nos latitudes et sur les problématiques environnementales politiques que pose le radoucissement de cette saison consécutif au réchauffement climatique. Le journaliste Guillaume Desmures, grand spécialiste de l'histoire des sports d'hiver, prévient lui aussi. La parenthèse heureuse des stations de ski se referme. L'idéal d'une station quatre saisons qui tournerait toute l'année avec des activités adaptées n'est aujourd'hui qu'une fable. Elle représente cependant une piste sérieuse de transformation en développant une économie viable à l'année. Il nous explique pourquoi les modèles des stations de ski, hérités des 30 glorieuses, se trouvent aujourd'hui à bout de souffle, d'un point de vue aussi bien économique qu'écologique ou immobilier. Michel Pastoureau, cet historien spécialiste de la symbolique occidentale, a publié en 2022 « Blanc », le sixième et dernier volume d'une série consacrée à l'histoire sociale et culturelle des couleurs. À l'époque des Lumières, l'hiver change alors de couleur. De noir, il devient blanc. À la nuit et à la misère succède désormais le froid. Ce blanc est en effet celui de la glace et de la neige que l'on peut voir dans la peinture de paysages et la représentation des saisons. Mais un autre changement pointe son nez. Le bleu succéderait au blanc. couleur froide, le bleu est également devenu plus récemment une des couleurs de Noël, il raconte. Le 21 décembre 2018, en allant faire une conférence en banlieue parisienne par un sombre soir d'hiver, sur la grande place de la ville, j'ai pu lire une étrange banderole. « Rendez-nous les vraies couleurs de Noël !» Toutes les décos de cette ville, qui était superbe d'ailleurs, étaient blanches, argent, bleu clair. Pas de vert ni de rouge, pas de doré. On préférerait aujourd'hui l'argenté. Mais faire du bleu une couleur de Noël me semble artificiel et quelque peu bling-bling, comme si on avait placé l'été au début de l'hiver et, au Noël des petites gens, substitué celui des parvenus.
Mais Noël, c'est du passé, c'est bientôt le printemps
ah,
et
ouais.
Le Verseau, le dernier signe de l'hiver, signe d'eau, verse, enfin paraît-il, sur le monde l'eau de la connaissance et de l'esprit, c'est l'horoscope de Rob Bresny.
Certaines personnes que je respecte considèrent la Bible comme une grande œuvre littéraire. Je ne partage pas ce point de vue. Comme la psychologue Valérie Taricot, je pense que cet ouvrage est rempli de répétitions, de constructions maladroites, d'incohérences, de personnages inconsistants, de tangentes ennuyeuses et de passages où personne ne comprend ce que l'auteur voulait dire. J'attire ton attention, cher Verseau, car je crois que c'est le bon moment pour remettre en question les conventions, échapper aux opinions toutes faites et donner ton avis, forcément unique, sur à peu près tout. Appuie-toi sur Valérie Taricot et sur moi.
Campus Bordeaux.
Campus Bordeaux.
88.1.